Enfin, le cœur lourd, il choisit l'issue qui sera la moins terrible pour Marie. Il la répudiera secrètement. La loi permet en effet de remettre un billet de répudiation juste devant deux témoins. Non, il ne la diffamera pas publiquement, juste deux témoins. Puis il s'en ira, loin, très loin. Pauvre Joseph, combien de temps a duré ton calvaire? Ce n'est qu'après avoir traversé ces angoisses indicibles, après avoir accepté de perdre Marie, d'en faire le sacrifice, que l'ange de Dieu t'apparaît et te la rend. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Quelles sont étranges et douces à tes oreilles ces paroles, Joseph. Tu en avais fait le sacrifice et Dieu te la rend, enrichie de son fils. On a quand même envie de dire au bon Dieu, tu n'aurais pas pu le prévenir plus tôt, en même temps que Marie, par exemple. Pauvre Joseph, d'un côté tu as la joie de retrouver Marie, et de l'autre, te voilà chargé d'une bien lourde mission. Benoît XVI est admiratif face à la foi de Joseph, qui croit tout ce que l'ange lui dit en songe. Le message qui lui est transmis est bouleversant et réclame une foi courageuse. Est-il possible que Dieu lui ait vraiment parlé? Est-il possible que Dieu ait agi de cette façon chez un être humain? Est-il possible que Dieu ait réalisé ainsi le début d'une nouvelle histoire avec les hommes? Nous pouvons imaginer combien Joseph lutte intérieurement avec ce message inouï du songe, nous dit Benoît XVI. Car tout charpentier que tu as ta place auprès de l'Immaculée, Joseph. Tu vivras tout près du tabernacle que tu abriteras sous ton toit. Puis, pendant des années, tu commanderas et tu enseigneras au Messie. Ne tremble pas devant un mystère si grand, Joseph. Dieu compte avec toi, tout comme il a voulu compter avec Marie. Ton rôle n'est pas secondaire. Tu as une part entière et primordiale à accomplir dans le plan divin. Eh oui, Joseph, fils de David, pauvre charpentier, tu as la mission la plus haute que nul homme n'ait jamais reçue. Faire du Fils de Dieu un homme. Rien que ça. Dieu te confie à toi, le charpentier de Nazareth, son Fils et l'Immaculée Conception, les trésors les plus précieux que la terre ait jamais portés. Et tu n'as pour les abriter que ton atelier. Comme tout ton peuple, Joseph, tu attendais le Messie. Mais tu n'avais certainement pas imaginé que toi et Marie alliez être les premiers à l'accueillir ici-bas. Avec Marie, tu t'attendais à une vie simple, une de ces vies qui traversent l'histoire sans laisser de traces. Tu pensais partager tes jours entre ton Dieu, ton épouse inépousée et ton établi de charpentier. Extérieurement, il en sera ainsi. Mais tu deviendras le charpentier le plus célèbre de l'histoire de l'humanité. Toi et Marie, vous saurez où grandit le Messie que tout le monde attend. Parfois, ce sera simple de vous taire. Et d'autres fois, il faudra vous mordre la langue pour ne pas trahir le secret. De toute manière, qui vous croirait? Non, mais tu t'imagines, Joseph, dire à tes voisins, tes amis ou tes clients: vous voulez voir le Messie? Mais venez, il est dans mon atelier. On te prendrait pour un fou. Car seul un fou, un fou d'amour pouvait concevoir un plan pareil. En effet, pour venger son amour rejeté par les hommes, Dieu se fait homme. Pour être sûr qu'on le comprenne, il nous parlera d'amour avec nos mots, nos manières. Toute sa vie, ses actes, ses paroles nous révéleront l'amour miséricordieux du Père. Quelle humilité! Quelle confiance t'a-t-il fallu, Joseph, pour te livrer à cette mission unique? Merci, Joseph. Parce qu'un Joseph était indispensable dans cette histoire. Il devait être le dépositaire du secret divin qu'il devait cacher sous le voile du mariage et de la famille, nous dit Jean-Paul II. Et d'une manière exceptionnelle, Joseph et Marie ne font plus qu'un. Unis par Dieu, autour de Dieu, pour lui et pour nous tous. Et maintenant, oserons-nous imaginer quelque chose de leur retrouvaille après une telle épreuve? Un jour nouveau commence, un jour reçu de toi, Père. Avec quelle joie, mais aussi avec quel respect, voyons-nous Joseph s'approcher de Marie ce jour-là? Oh, il ne sait s'il doit la serrer sur son cœur ou s'incliner devant elle en pensant à celui qui repose en son sein. Tu accueilles maintenant chez toi l'arche de la Nouvelle Alliance. Le voile du temple est bien mince pour toi, Joseph. Imaginons-les échanger sur leur annonciation respective. Oh, ils ne vont pas crier cela sur les toits, non? Essayons de partager l'intimité de leurs échanges, d'entendre quelque chose du son de leur voix lorsque pour la première fois ils se révèlent leurs secrets. Regardez, voir, nous dit Saint Ignace. Voir comment Joseph raconte ce songe qu'il a eu. Comment à son tour, enfin, Marie lui partage-t-elle le récit de l'incarnation. C'est tellement moins lourd pour elle maintenant. Ils sont deux à porter ce secret. Aux yeux de tous, Joseph le Juste est le père de Yeshua, comme Marie et sa mère, tout simplement. Le petit ressemblera à sa mère, mais il aura bien les mêmes intonations de voix, la même manière de se pencher sur son établi ou de polir une planche que Joseph. Avec générosité, avec une folle confiance, un fol abandon, Joseph et Marie ont répondu oui à l'appel de Dieu, qui a voulu avoir besoin de l'un et de l'autre, ensemble. Ils ont accepté de changer leur plan, de voir leur vie bouleversée, de quitter leur sécurité pour se livrer au Seigneur dans la confiance. Ainsi est née la Sainte Famille. Son chef est le plus petit des trois, Joseph, un homme droit et bon. Bien sûr, tout comme Dieu avait préparé le cœur de Marie pour une telle mission, on peut imaginer qu'il avait préparé celui de Joseph pour être le meilleur des pères et le plus délicat des époux. Nous pouvons maintenant entrer dans le récit de la nativité.